Bonjour à tous. Ça fait du bien de se retrouver ici. C'est vrai que pour notre part, on a été beaucoup absents, que ce soit pour le travail, que ce soit pour un camp que nous avons fait avec Sylvie. Enfin, j'aurai l'occasion d'y revenir, de vous faire part des grandes bénédictions que nous avons vécues avec ces jeunes pendant quelques jours. Nous avons plaisir à nous retrouver, à nous rassembler. Alors, nous sommes quelques-uns ici. D'autres fois, à d'autres occasions, on peut avoir des plus grands rassemblements. Et le texte que nous allons lire tout de suite parle d'un rassemblement avec ses aventures et ses mésaventures qui ont lieu pendant ce rassemblement. Je vous invite à ouvrir à la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 2, Luc 2, et nous allons lire les versets 40 à 52. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, il retourne à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, il trouve l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses, pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répond, Vous m'avez cherché? Pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit. Sa sagesse se développe. Il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Vous connaissez les évangiles, celles que nous avons dans la Bible, les évangiles canoniques, et ces évangiles sont très peu bavardes sur l'enfance de Jésus. Alors, on connaît bien sûr l'histoire de sa conception, cette conception miraculeuse, de sa naissance. Nous avons d'ailleurs l'habitude de commémorer cet épisode le 25 décembre à Noël. Nous connaissons aussi assez bien la période de son ministère, même si les évangiles ne donnent pas tous les détails de cette période de 3 ans. Mais entre-temps, rien, ou du moins pas grand-chose. Alors peut-être que si la parole n'en parle que très peu, c'est que c'est pas si important que ça. Que somme toute, Jésus était un enfant, un adolescent assez banal. Pourtant, enfin, moi qui suis un peu curieux, je me pose plusieurs questions. Comment il était, cet enfant, Jésus, cet adolescent? Est-ce qu'il avait conscience de sa personne, de sa mission? Est-ce qu'il accomplissait des miracles? Alors peut-être que vous êtes aussi curieux que moi et que vous vous posez ces questions vous aussi. En réalité, si on accepte la visite des mages, qu'on peut d'ailleurs difficilement dater, et les premiers jours de sa vie, cet épisode est le seul que nous venons de lire est le seul qui évoque un moment de la vie de Jésus entre sa naissance et le début de son ministère public. C'est le seul passage qui lève ce voile sur 30 ans de la vie de Jésus, de 30 ans de sa présence parmi nous, sur terre, incognito. Une présence incognito du Fils de Dieu sur la terre. Alors, comme je l'ai dit, si les évangiles canoniques sont presque muets sur l'enfance de Jésus, les évangiles apocryphes en parlent. Et d'ailleurs, contiennent de nombreux écrits qui sont parfois assez extravagants. Alors, juste petite parenthèse, je rappelle que pour ce qui nous concerne, nous ne reconnaissons pas à ces écrits le caractère inspiré. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas ces écrits dans nos Bibles. Mais il est intéressant de voir comment cette enfance de Jésus est décrite et faire un parallèle avec nos écrits inspirés. Et on y voit un Jésus qui accomplit des miracles, un enfant capricieux. Par exemple, il pétrit des moineaux à partir de terre glaise, un jour de sabbat, et d'un claquement de main, leur donne vie. Ou alors, une autre fois, il est irrité par un autre enfant qui le bouscule, et par sa seule parole, il le terrasse. Ailleurs, il apparaît comme un surdoué qui remet en place son maître d'école. C'est demain la rentrée. Non, les maîtres d'école ne sont pas là. Ils doivent être... Tout cela contraste énormément avec l'extrême sobriété des évangiles bibliques. Alors, même si au premier abord, dans nos écrits, il y a quelques aspects étonnants. Le seul récit de l'enfance de Jésus dans ses évangiles, dans nos évangiles, est finalement banal. Ce texte apparaît comme une parenthèse. Et une parenthèse, voilà, nous raconte un épisode. Oui, je l'ai dit, banal. C'est l'histoire d'un enfant qui est perdu dans une foule et qui est finalement retrouvé par ses parents. On pourrait presque entendre « Le petit Jésus a perdu ses parents et les attend à l'accueil du magasin. » Chose qu'on a sûrement vécue. Les uns les autres, qui avons des enfants. Alors, il faut se souvenir quand même que le pèlerinage à Jérusalem, pour les différentes fêtes, suscitait de grands mouvements de foule. On s'y rendait en famille, au sens large de la famille. Et on se déplaçait vraiment en grand groupe. Ça peut expliquer, très vraisemblablement, que Joseph et Marie ne se sont pas rendus compte tout de suite que Jésus n'était plus avec eux. Ils pensaient sans doute qu'il était avec les autres enfants du convoi. Alors, je ne sais pas s'ils étaient avec les personnes du village de Nazareth, hein, mais ils ont pu penser ça. Mais à un moment donné, ils réalisent que Jésus n'est pas là. Et là, l'angoisse les saisit. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un de vos enfants dans une grande foule. Ça m'est arrivé. ça nous est arrivé. Je vois Sylvie qui se souvient de l'épisode. Je peux comprendre aisément l'angoisse qu'ont pu ressentir à ce moment-là Joseph et Marie. Alors mon fils, on l'a retrouvé au bout d'un quart d'heure. Mais ça semble très long, 2-3 jours. Et c'est vrai que le temps paraît très très long à ces moments-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bien entendu, comme ils voient que Jésus n'est pas là, ben, ils font demi-tour, ils retournent à Jérusalem et ils finissent par le retrouver au temple. On passe à l'épisode du temple et puis tout redevient comme avant. Je reviens sur mes... Voilà, tout devient comme avant. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. On voit ici un incident banal au milieu d'une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal, comme pour n'importe quel enfant. Mais cette banalité, je pense qu'elle est importante parce qu'elle témoigne de la réalité de l'incarnation de Jésus. Pour que le Fils de Dieu devienne homme, il fallait d'abord qu'il nous rejoigne ainsi dans notre banalité, dans notre quotidien, dans ce qui est notre propre vie. C'était quelqu'un comme nous, un homme, un enfant, un adolescent comme nous. Ça n'aurait pas été le cas s'il s'était incarné en surhomme, comme nous présentent un peu les évangiles apocryphes. Jésus n'était pas super Jésus. Non, Jésus n'est pas un super-héros. Il est notre frère en humanité. Ceci dit, derrière cette banalité se cache autre chose. Notamment dans la façon dont Luc raconte cet épisode. On peut avoir la puce à l'oreille par cette phrase à la fin du texte qu'on a lu tout à l'heure. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Et si on mène un peu l'enquête, je vous rappelle que je suis curieux, on se rend compte qu'il y a quelques indices cachés qui indiquent que ce texte va au-delà de l'épisode banal. Vous vous souvenez à quel moment ça se passe? À quel âge avait Jésus quand ça se passe? C'est ça, Jésus a 12 ans. Est-ce que c'était la première fois qu'il accompagnait ses parents à Jérusalem pour la Pâque? Est-ce qu'il le faisait chaque année? On ne sait pas. Et si on ne sait pas, c'est que c'était sûrement pas important. Mais il se trouve quand même que ce nombre de 12 a une portée symbolique dans la parole de Dieu. Elle désigne le peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Autre élément important. Jésus est retrouvé par ses parents au 3e jour. Pendant ces 3 jours, il n'y avait pas d'alerte enlèvement à l'époque. Mais Jésus pouvait être considéré comme mort pour ses parents. Ils ont dû se faire tous les films possibles et imaginables. Il était mort pour eux. Et le 3e jour, il le découvre vivant. Et en plus de ça, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une coïncidence? Ça se passe pendant les fêtes de Pâques. Ensuite, il y a le fait que Jésus discute avec les maîtres de la loi. Il les écoute, il pose des questions. Et il fait preuve déjà d'une sagesse qui étonne tous ceux qui l'entendent. Et plus tard, ce seront eux, les chefs religieux, qui poseront des questions à Jésus, la plupart du temps d'ailleurs pour le piéger. Et les foules seront toujours étonnées par sa sagesse. C'est comme si l'affrontement futur de Jésus avec les chefs religieux se préparait déjà, ici, dans le temple, lorsque Jésus a 12 ans. Enfin, il y a la réponse de Jésus à l'inquiétude de ses parents. Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous imaginez ? J'imagine mon fils quand je l'ai perdu. Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne comprendrez pas, hein ? Vous ne savez pas que je dois être dans la maison de mon père ? Et là, ces paroles sont vraiment étonnantes. Elles traduisent déjà un lien particulier de Jésus avec ses parents. Et ça préfigure ce qu'il dira plus tard, et qui d'ailleurs sera mal perçu par sa famille. En Luc 8, 20, 21, « Alors on annonce à Jésus, ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Mais Jésus dit à tout le monde, « Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Il y avait dans ce dialogue de Jésus, enfant, adolescent, avec ses parents, quelque chose déjà du décalage et de l'incompréhension à laquelle Jésus devra faire face dans son ministère, de la part des siens même. Alors, je ne crois pas que tous ces indices dont on vient de parler sont vraiment des coïncidences. La façon dont Luc raconte cet épisode, somme toute banal, de l'enfance de Jésus, annonce ce que sera son ministère, un peu moins de 20 ans plus tard. Et petit à petit, Dieu préparait Jésus à l'accomplissement de sa mission. Dieu prend le temps de la préparation de son plan. Toute l'histoire biblique en témoigne. En déployant sur plusieurs siècles l'action de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu prend le temps. Dieu prend son temps. Et c'est vrai aussi dans notre vie, où nous aimerions souvent que les choses avancent plus vite. La prière Google, vous connaissez ? Vous tapez Google, vous priez Google et vous avez la réponse immédiatement. Ce serait bien, hein? Mais Jésus, le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Dieu prend son temps. On aimerait que tout soit réglé d'un claquement de doigts ou d'une simple prière. Tchac. Ça peut arriver. Le temps de Dieu peut être très court, il peut être très long. Et il y a des accomplissements qui demandent une attente et une préparation. Et Dieu sait prendre ce temps. Pour nous, du moins pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est la rentrée. Chacun prépare qui ses cartables, ses stylos, rentre de vacances. Mais quoi qu'il en soit, cet épisode qui au premier abord semble banal nous invite à voir la présence de Dieu dans notre quotidien. La plupart des jours, des mois à venir, seront sans doute banals pour chacun d'entre nous, mais ça ne signifie pas, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne sera pas présent dans cette banalité de notre quotidien. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne sera pas là, en train d'accomplir ou de préparer l'accomplissement de ses promesses. Oui, il sera là tous les jours dans notre banalité. Il sera là dans les grands moments de joie et de victoire, dans les moments de tristesse, de douleur, dans nos succès, dans nos échecs. Gardons cette assurance dans notre cœur. Nous en aurons sûrement grandement besoin. Amen.